Une fois de plus, me voici arrivé à un stade de mon récit où il m'est bien pénible d'aller de l'avant. Je devrais être un peu plus endurci, mais certaines expériences vous infligent des plaies trop profondes pour qu'elles puissent cicatriser et laissent derrière elles une hypersensibilité telle que toute évocation de souvenir fait revivre l'expérience originelle dans toute son horreur. Comme je l'ai dit, nous avons repéré des obstacles juste devant nous, et j'ajouterai que nos narines ont presque simultanément été assaillies par une très étrange intensification de la puanteur omniprésente laissée en ces lieux par nos prédécesseurs. La lumière de la seconde torche nous a dévoilé sans l'ombre d'un doute la nature de ces objets, et si nous avons osé nous en approcher, c'est uniquement parce que même à distance, il était clair qu'ils n'étaient plus en état de nous faire le moindre mal, tout comme les 6 spécimens similaires extraits des monstrueuses tombes en forme d'étoiles dans le camp du malheureux Lake. En effet, ils étaient tout aussi incomplets que ces derniers, bien qu'avoir la flaque verte et épaisse qui s'étendait autour d'eux, il fut évident que leur mutilation était infiniment plus récente. Ils n'étaient que 4, alors que d'après les communiqués de Lake, nous pensions que le groupe qui nous précédait se composait de 8 créatures. Nous ne nous attendions pas à les retrouver dans cet état, et nous nous sommes demandé quel combat monstrueux avait bien pu se dérouler ici, dans les ténèbres. Les pingouins, s'ils sont attaqués, se défendent avec férocité à coups de bec, et nos oreilles nous indiquaient qu'il y avait eu une colonie non loin de là. Les autres les avaient-ils dérangés au risque de s'attirer leurs représailles? Rien ne le suggérait, car les becs des pingouins ne pouvaient rien contre les tissus ultra-résistants que Lake avait disséqués, et surtout pas leur infliger les terribles lacérations que nous avions pu constater. De plus, ces gros oiseaux aveugles nous avaient semblé particulièrement pacifiques. Peut-être que ces êtres s'étaient battus entre eux, et que les 4 disparus en étaient responsables. Mais dans ce cas, où étaient-ils passés? Étaient-ils là, tout proches, prêts à nous sauter dessus? Nous avons jeté quelques coups d'œil anxieux vers les passages latéraux, tout en reprenant à contre-cœur notre progression. Quelle qu'ait pu être la nature de ce conflit, c'était indubitablement celui-ci qui avait effrayé les pingouins et les avait poussés à d'inhabituelles errances. Il devait donc avoir éclaté à peu de distance de la colonie que nous entendions dans ce vaste gouffre insondable, car rien n'indiquait que des oiseaux auraient résidé habituellement à l'endroit où nous nous trouvions. Nous avons supposé qu'il y avait peut-être eu une course-poursuite et que les plus faibles cherchaient à regagner les traîneaux au moment où leurs poursuivants les avaient achevés. On ne peut qu'imaginer cet affrontement démoniaque entre des monstruosités sans nom, surgissant de ce gouffre d'ombre, au milieu d'un nuage de pingouins terrifiés, piaillant en cherchant à s'enfuir. Je peux dire que nous nous sommes approchés de ces objets mutilés avec lenteur et réticence. Oh, Dieu du ciel, si seulement nous ne nous en étions jamais approchés, si seulement nous avions rebroussé chemin et couru de toute la vitesse de nos jambes le long de ce tunnel blasphématoire au sol lisse et aux parois décorées de sculptures dégénérées, Saint-Jean moquaisement, les choses qu'elles avaient remplacées. Oui, si seulement nous nous étions enfuis avant de voir ce que nous avons vu et avant que ne vienne se graver dans nos esprits ce qui nous empêchera à tout jamais de respirer normalement. Nos 2 torches étaient braquées vers les cadavres prostrés, si bien que nous avons vite compris en quoi précisément ils étaient incomplets. Aussi écrasés, compressés et tordus qu'ils soient, ils avaient un point en commun. Ils avaient tous été décapités. Leur tête en forme d'étoile à 5 branches, prolongée de tentacules, avait été sectionnée, et en nous rapprochant, nous avons constaté qu'elles avaient été arrachées plus que tranchées. Leur nauséabond ichor vert sombre formait une large flaque qui allait en s'élargissant, mais son odeur était presque entièrement couverte par ce nouveau et étrange relent, plus étouffant encore en ce lieu qu'à tout autre stade de notre voyage. Ce n'est qu'une fois très près des créatures que nous avons pu discerner la source de cette puanteur. Et à ce même instant, Danforth, qui se souvenait de certaines éloquentes sculptures représentant l'histoire des anciens à l'ère permienne, il y a 150 millions d'années, a laissé échapper un hurlement torturé qui a résonné de façon hystérique dans ces passages voûtés et archaïques au palimpseste maléfique. J'ai bien failli faire écho à son cri, car moi aussi j'avais vu ces sculptures archaïques et j'avais admiré en frissonnant la façon dont l'artiste inconnu avait suggéré que certains cadavres mutilés d'anciens avaient été retrouvés recouverts d'une substance visqueuse, les victimes des terrifiants Chogoths, décapités par Succion au cours de la guerre de reconquête. C'étaient des sculptures infâmes et cauchemardesques, même si elles relataient des événements passés depuis longtemps. Car les Chogoths et leurs actions ne devraient jamais être aperçues par des yeux humains, ni représentées par qui que ce soit. L'auteur dément du Necronomicon s'était efforcé de jurer que pas un seul de ces êtres n'avait été engendré sur notre planète et que seuls des rêveurs sous l'emprise de la drogue avaient pu les imaginer. Des protoplasmes amorphes capables d'imiter et de reproduire toute forme, organisme ou processus, des agglutinations visqueuses de cellules bouillonnantes, des sphéroïdes élastiques de 5 mètres, d'une plasticité et d'une ductilité infinies, des esclaves hypnotisés, des bâtisseurs de cités entières, de plus en plus difficiles à maîtriser, de plus en plus intelligents, de plus en plus amphibies, de plus en plus métamorphes. Dieu tout-puissant, quelle folie avait bien pu pousser ces anciens blasphématoires à créer et employer de telles abominations ? Et à ce moment, lorsque Danforth et moi avons vu le limon noir luisant et iridescent, collant à ces corps sans tête qui empestaient cette nouvelle odeur dont seul un esprit dérangé pourrait concevoir la source, un limon avec lequel avait été tracé sur une partie lisse de ce mur resculpté une série de groupes de points, nous avons compris de façon intime ce qu'est l'épouvante cosmique. Nous n'avions plus peur des 4 êtres disparus, car nous nous doutions bien qu'ils ne pourraient plus nuire, les pauvres diables. Après tout, leur espèce n'était pas maléfique en elle-même. C'étaient des êtres aussi civilisés que nous, issus d'un autre âge où l'ordre des choses était bien différent. La nature leur avait joué un tour diabolique, et elle en fera autant à tous leurs semblables que la folie, la cupidité ou la cruauté des hommes pourraient exhumer de ce désert polaire hideusement mort ou en sommeil, et leur retour avait viré à la tragédie. Ils n'étaient même pas des sauvages, car qu'avaient-ils donc fait de mal ? Ce terrible réveil dans le froid d'une époque inconnue, et peut-être l'attaque de quadrupèdes à fourrure aboyant frénétiquement. Ils avaient dû se défendre, encore à moitié endormis, contre eux, ainsi que contre ces simiens blafards, tout aussi frénétiques, avec leurs bizarres enveloppes et leurs appareils qui ne l'étaient pas moins. Pauvre Lake, pauvre Jedney, et pauvres anciens, scientifiques jusqu'au bout, qu'ont-ils fait, que nous n'aurions fait à leur place ?